profond également. Faut-il que je vienne vous chercher? Allez, allez. Eh oui, la communion fraternelle, c'est aussi ça, être près les uns des autres. Hein? Voilà, allez Antoine, venez par ici avec nous. Non, 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 ça va aller là, vous allez voir, le Seigneur va vous bénir. Allez. Voilà, ça ressemble à quelque chose, puisque... Et qu'est-ce qu'ils font là, Dominique et... Approchez-vous, approchez-vous. Approchez-vous. Non, non, il chauffe pas le... Allez, venez, venez par là. Bon, il y a des récalcitrants. Béni soit Dieu. Dieu est grand. Il est tellement grand que la Bible dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais si cependant Dieu est grand, il se fait suffisamment petit, si je puis dire, pour venir habiter où ça ? Dans notre cœur. Et quand ça devient le cas, alors tout change. Amen. Hein? D'ailleurs, il y a un vieux cantique qui disait « Un jour, Jésus-Christ est venu habiter mon cœur. » Gloire à Dieu. Et que cela puisse être pour quelqu'un ou quelques-uns, aujourd'hui, que le Seigneur vienne habiter dans votre vie, dans votre cœur. Que son nom soit loué. On va lire un passage dans l'évangile de Luc. Au chapitre 4 et au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, l'Esprit de Dieu bien sûr, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Livre du prophète Ésaïe qui se trouve dans la Bible. L'ayant déroulé, parce qu'à l'époque, les livres ne se présentaient pas sous la forme de ceux que nous connaissons aujourd'hui, mais sous forme de rouleau. Donc, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Voilà. La semaine dernière, nous avons, dans notre Église, célébré le cinquantenaire de sa création, de cette église. Hein? C'est une date qui marque, ça, 50 ans. 50 ans. Eh bien, chers amis, parmi le peuple d'Israël, vous voyez, autrefois, il y avait deux séries d'années particulières. D'abord, il y avait ce que l'on appelait l'année du relâche, qui revenait tous les 7 ans. Voilà. Et dans cette année du relâche, eh bien, des mesures particulières devaient être prises. D'abord, l'année du relâche, les dettes étaient annulées. C'est formidable, ça. Vous ne trouvez pas? Amen, dit quelqu'un. Oui, hein, c'est bien. Hein. Supposez que je vous ai prêté, je ne sais pas moi, 5000 euros parce que vous traversiez une période difficile. Et voici que la septième année arrivée et tout à coup, vous ne me deviez plus rien. Psst, la dette effacée. Et puis, l'année du relâche également, les esclaves, puisque l'esclavage existait à cette époque-là, étaient libérés. Vous voyez ? On pouvait au maximum être réduit en esclavage pendant 7 ans, mais pas un jour de plus. Et l'année du relâche, les esclaves étaient libérés. Ça, c'était tous les 7 ans. Et puis, tous les 50 ans, cinquantenaire, il y avait ce qu'on appelait l'année du jubilé. Et l'année du jubilé, eh bien, il y avait là aussi une mesure particulière qui devait être prise. Ceux qui avaient dû se séparer, vendre leur propriété familiale, suite par exemple à des difficultés financières, cette année-là, la 50e année, ils retrouvaient en cette année du jubilé l'intégralité de leur héritage ancestral. Voilà, de telle sorte que finalement ce n'était pas le fond de terre qu'on vendait, mais plutôt le nombre de récoltes qui nous séparaient jusqu'à la 50e année. Vous voyez ? Voilà. Et ainsi, l'acquéreur, eh bien, il devait restituer au propriétaire initial le bien qu'il avait acquis. Voilà, c'était une mesure que Dieu avait instituée pour que il n'y ait pas des gens qui s'appauvrissent à l'excès et d'autres qui s'enrichissent à l'excès. Et parce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans notre société. Il y en a qui en ont de plus en plus des maisons, ils ne savent plus quoi en faire. Et puis, il y en a, ils vivent sous les ponts parce qu'ils n'ont plus rien. Alors, on peut dire que ces années-là, vous voyez, autant l'année du relâche tous les 7 ans, que l'année du jubilé, tous les 50 ans, étaient des années où l'on faisait grâce à son prochain, comprenez-vous, où on le traitait avec bonté, avec miséricorde, en annulant ses dettes, en rendant la liberté aux esclaves pour ceux qui étaient esclaves, et en restituant l'héritage qui avait été dilapidé. Dans l'évangile de Luc, où nous venons de lire, Jésus a indiqué dans sa prédication dans la synagogue de Nazareth qu'il était venu lui aussi inaugurer une année de grâce. Vous allez faire attention à la lecture, hein? Il a terminé sa lecture du livre du prophète Ésaïe par cette parole, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, etc. Et à la fin du verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Alors pourquoi et comment ? Eh bien parce que nous aussi, par la foi en Jésus, nous pouvons, sur le plan spirituel, non plus matériel, recevoir les avantages, les privilèges que pouvait apporter aux Israélites l'année du relâche et l'année du jubilé. Nous pouvons voir notre dette annulée. Peut-être certains diront, mais monsieur Ray, moi je n'ai pas de dette, tout est clair, tout est net, on en reparlera dans 2 minutes. Nous pouvons retrouver la vraie liberté. Hein? Peut-être quelqu'un dira, mais vraie liberté, mais je suis libre, moi, hein? Je vais, je viens, où je veux, quand je veux, comme je veux. On va voir si c'est aussi exact que ça. Et puis je peux récupérer mon héritage perdu. D'abord, c'est vrai, en Jésus et par Jésus, qui est venu publier une année de grâce, nous pouvons voir notre dette annulée. Vous savez que vous avez une dette ? Ah oui, oui. Vous avez une dette colossale, mes amis. Colossale, énorme. Non pas envers un homme, non pas envers un être humain, mais envers Dieu. Une dette que vous ne pourrez jamais, jamais, jamais régler par vous-même, ni par vos efforts, ni par votre travail, ni par vos finances, ni par quoi que ce soit d'autre. Il s'agit de quoi? De la dette de vos péchés, de nos péchés, parce qu'on est tous concernés, et je suis dans le tas moi aussi. La dette de nos péchés que nous avons accumulée tout au long de notre vie. Et tout au long de notre vie, nous avons accumulé la dette. Mais la bonne nouvelle, parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Vous êtes venus cet après-midi écouter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, par sa mort, alléluia, sur la croix, il a lui-même payé, réglé la dette à notre place. Dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, au verset 3, c'est bien spécifié cette affaire. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 3, c'est un verset capital, important. Vous pouvez même, si vous le voulez, l'apprendre par cœur. Et il est dit ceci, 1 à Timothée, chapitre 2, verset 3. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Écoutez la suite. Car il y a un seul Dieu, tout le monde est d'accord, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. Jésus s'est donné en rançon pour nous tous. Il a payé la dette. Voyez-vous ? Il ne l'a pas payé avec de l'or, de l'argent, des richesses terrestres, matérielles. L'épître de Pierre nous dit que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de la mauvaise manière de vivre, que nous avons hérité de nos ancêtres, mais nous avons été rachetés, délivrés, pardonnés, purifiés, libérés de nos péchés par le sang précieux de Jésus, le Fils de Dieu, qui est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Mes amis, de toute éternité, Dieu savait ce qui allait arriver, n'est-ce pas? Dieu savait qu'en créant l'être humain pour le bonheur, pour la paix, pour la joie, pour la sainteté, pour la vraie liberté, il savait que cet être humain, eh bien, allait s'égarer, allait désobéir, mais il avait déjà dans sa sagesse extrême préparé la solution en son Fils éternel. Et de toute éternité, le Fils de Dieu était destiné, prédestiné, à venir un jour s'incarner dans une nature humaine semblable à la nôtre pour finalement mourir sur la croix pour que par son sacrifice, eh bien, la dette de nos péchés puisse être effacée. Alléluia. Alors cet après-midi, si vous voulez que la dette soit annulée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer, mais non. Vous savez que parfois, la religion a enseigné ça. Il faut payer pour recevoir le pardon des péchés. Qu'est-ce que c'est cette affaire? On appelait ça autrefois les indulgences. Hein? Je me souviens, lorsque j'ai déjà signalé ce fait, au Pays Basque, où les gens sont très, allez, on va dire, bigots, hein? La coutume était que chaque ami de la famille, chaque voisin, vous voyez, devait payer un office religieux. Et dans la ville de Saint-Jean-de-Luz, pas très loin de Biarritz, il y avait un homme, c'était un notable qui était connu d'un tas de gens. Alors, mes amis, il a eu droit à 1000 offices religieux. En tout cas, on a payé pour qu'il puisse bénéficier de 1000 offices religieux en sa faveur. Eh bien, je suis dans l'obligation de vous dire que tout ça ne sert à rien. Ne sert à rien. Parce que seule l'œuvre de Jésus accomplie à la croix du calvaire nous permet de recevoir le pardon de nos péchés. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi dans ce lieu qui a conscience qu'il est un pécheur? Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu qui réalise que s'il en reste là, il sera irrémédiablement perdu, voué aux tourments infernaux? Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui réalise que la justice de Dieu n'est-ce pas, lui sera appliqué et que s'il comparait au jour du jugement dans l'état où il est actuellement, eh bien, il sera définitivement perdu pour l'éternité tout entière. Eh bien, je voudrais dire à cet homme ou à cette femme que Jésus a tout accompli, mon ami, pour que tu sois sauvé. Et la volonté de Dieu, c'est que tu, non pas que tu périsses, non pas que tu termines ta course dans les tourments de l'enfer, mais que tu sois sauvé. Nous l'avons lu, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes, alléluia, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Hélas, tous ne le seront pas, mais tous pourraient l'être s'ils acceptaient simplement de mettre leur foi, leur confiance, leur espérance dans la personne de Jésus qui, donnant sa vie sur la croix du calvaire, a payé la dette. Alléluia! Vous ne pouvez pas la payer vous-même, mais Jésus l'a payée en votre faveur. Mais le péché, puisque nous parlons de péché, ce n'est pas seulement une dette, mais c'est aussi un esclavage. Ça vous tient, le péché. Ça vous domine. Ça vous asservit. C'est pas vrai? Ça peut être des choses les plus grossières, les plus flagrantes. Pas moi, l'alcool, la drogue, la débauche, la violence, etc., la délinquance. Hein? Il y a un moment où on n'est plus maître de soi, on ne contrôle plus la situation. On est entraîné, on voudrait ne pas le faire, mais voilà, c'est plus fort que moi. Je me souviens de ce garçon que je visitais en maison d'arrêt, et il me disait, voilà, vous savez, pasteur, cette fois j'ai bien compris. Hein. Ah, ça va me servir de leçon, parce que c'est pas marrant d'être pendant plusieurs mois là derrière les barreaux. Et vraiment, je vous assure que eh bien, c'est la dernière fois. Je vais me ranger. Je vais, à partir de maintenant, dès que je sors de là, mener une vie réglée. Et ma foi, ce garçon était sincère quand il me disait cela. Alors moi, j'ai dit, bon, mais ok, d'accord, hein, qu'il en soit ainsi, que tu prennes une bonne direction. Et puis donc, il est sorti. Et quelques temps plus tard, alors que j'entrais dans le hall, hein, pour faire mes visites aux détenus, je l'ai retrouvé là entre deux gendarmes, les mêmes menottés, la tête basse. Alors je dis, alors, il m'a dit oui. Vous voyez, il était plein de bonnes intentions, mais il était esclave de son péché. Alors, on n'est pas tous des délinquants, mais on est tous des pécheurs. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est tous des pécheurs. Et chacun à notre manière. Nous savons bien que si nous sommes livrés à nous-mêmes, eh bien le péché nous entraînera là où nous ne voudrions pas aller. Nous en sommes esclaves. Mais, gloire à Dieu, hein? L'évangile, c'est un évangile libérateur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien les hommes affirment chacun à sa manière que ils font ce qu'ils veulent. Mais vous savez, il y a un verset dans l'épître de Pierre qui dit ceci, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. C'est pas vrai? Sous ce vocable de liberté, on fait n'importe quoi. Regardez la société telle qu'elle est aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que les gens sont véritablement libres? Mais non, ils sont entraînés par le flot impétueux de leurs mauvaises habitudes. Mais Jésus, lui, donne la vraie liberté, c'est-à-dire la capacité de renoncer pour toujours à la pratique du péché. Un jour, Jésus, dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, très exactement, au chapitre 8, a eu cette affirmation, n'est-ce pas ? Il a dit, si vous devenez mes disciples, si vous gardez ma parole, si vous acceptez mon enseignement, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Alors, ses auditeurs, qui étaient des juifs, ont dit, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne, ce qui n'est pas vrai. Parce que quand nous lisons l'histoire du peuple juif, nous apercevons que bien souvent, ils ont été dominés, asservis par toutes sortes d'autres peuples. Mais enfin, et Jésus a répliqué en leur disant, mais celui qui se livre au péché devient l'esclave du péché. Mais il ajoutait, si le Fils, oui, le Fils de Dieu, vous affranchit, vous libère, vous deviendrez, vous serez réellement libre. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui a besoin d'une libération intérieure? peut-être de mauvaises pensées, peut-être de rancune, de haine, de violence, de colère. Peut-être vous êtes tenu, je ne sais pas moi, par le tabac, par quelques pratiques inavouables qui vous dominent, qui vous asservissent. Vous aimeriez que ça cesse, vous n'êtes pas fier de vous, vous avez même honte de vous-même, mais vous n'en sortez pas, malgré vos efforts, malgré vos tentatives, malgré votre bonne volonté, malgré vos résolutions. Jésus peut vous libérer. Jésus peut vous libérer. C'est le grand libérateur. Gloire à Dieu, c'est celui qui donne, non pas l'illusion de la liberté, mais la vraie liberté. Gloire à Dieu. Et cet après-midi, quelqu'un peut recevoir la grâce du Seigneur. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Je me souviens de ce vieux papy gitan. Il y a bien des années, tiens, c'était encore à Bayonne. Sa fille vient me voir, me dit, venez prier pour mon père. Il a un problème de vésicule biliaire. Hein? Il a le gésier engorgé, là. Hein? Alors, venez prier. Alors, j'étais dans la caravane. Et il y avait ce vieux bonhomme. Alors je dis, parce que il était converti quand même, hein. Il avait pris le baptême. Il dit, ben, il n'y a pas quelque chose qui déplairait au Seigneur dans votre vie, avant compris. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Hein. Il y a des gens, ils sont dans le péché jusqu'au cou et ils veulent prier pour que Dieu les bénisse. Ça ne marche pas, ça. Il faut faire un choix. Et cet homme, avec une franchise, honnêteté, une certaine candeur, m'a dit, mais c'est vrai, vous voyez, il y a ce problème du tabac, là. J'arrive pas à m'en dépêtrer, j'en sors pas, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas s'il en était pas à 3 paquets par jour. Alors j'ai dit, voilà, vous allez confesser cette affaire au Seigneur. Pas à moi, mais à Dieu. Voilà, vous allez demander pardon de ce péché. Et il l'a fait, vous voyez. Il y avait sa fille, j'étais présent, et lui aussi, bien entendu. Et il a prié, Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi. Et puis on a prié, tout simplement, on a prié. Et puis je suis parti. Il n'a pas été guéri de la vésicule. Mais la cigarette, terminée. Après tous les dimanches matins, on y avait droit. Hein. Merci, Barreau d'Evel, comme disaient les gitans, parce que tu m'as délivré du tabac. Quelle libération. Alléluia. Quelle victoire. Hein. Quel affranchissement. Eh bien, c'est vrai pour ça, c'est vrai. Peut-être vous direz, mais moi, je n'ai rien à faire avec le tabac. Mais il peut y avoir autre chose. Jésus donne la vraie liberté. La vraie liberté. Et enfin, voyez, par la foi en Jésus, nous pouvons nous aussi retrouver l'héritage que nos premiers parents nous ont fait perdre. Quel est cet héritage? Dans le jardin d'Éden, quand Dieu y a placé Adam et Ève, ce n'était pas un jardin touristique, hein, il fallait qu'ils travaillent, parce que Dieu avait dit, Adam, tu garderas le jardin, tu le cultiveras, tu l'entretiendras, tu veilleras dessus. Voyez, le travail, ce n'est pas une malédiction. Ce qui est devenu une malédiction, c'est la pénibilité du travail. Mais le travail n'est pas en soi une malédiction. Adam, dans le jardin d'Éden, il avait une fonction, il avait un travail. Voilà. Et donc, dans ce jardin d'Éden, formidable, merveilleux, il y avait un arbre. Magnifique. Qui s'appelait l'arbre de vie. Et celui qui consommait de cet arbre, eh bien, vous voyez, c'était mieux que la fontaine de jouvence, était renouvelé constamment dans son être physique, de telle sorte qu'Adam et Ève, ils étaient en possession de l'immortalité. L'immortalité. Mais dans cet arbre, dans ce jardin d'Éden, pardon, il y avait aussi un autre arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit de cet arbre, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ah. Un seul commandement, une seule interdiction. Et puis le diable est venu sous la forme du serpent, vous connaissez l'histoire. Et puis, avec un langage doucereux, il a remis en cause la parole de Dieu. Il est malin, le diable. Hein? Plus malin que vous et moi. Il n'a pas dit, oh, c'est des histoires, tout ça. Il n'a pas commencé comme ça. La ficelle aurait été trop grosse. Mais il a simplement posé une question. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tu es bien sûr d'avoir bien compris? C'est vraiment ça? Et il a commencé à semer le doute, la confusion. Et puis quand il a vu que ça marchait, il a avancé un pion de plus en disant, mais non, Dieu ne mourrait pas. Mais si vous en mangez, vous allez voir, va vous arriver un truc merveilleux. Vos yeux s'ouvriront. Vous connaîtrez comme vous n'avez jamais connu. Vous allez acquérir une dimension nouvelle. Vous voyez, c'est toujours les mêmes slogans qui reviennent. Hein. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et Ève d'abord et puis Adam ensuite ont consommé du fruit défendu. Alors leurs yeux se sont ouverts, c'est vrai, mais pas dans le sens qu'ils l'espéraient. Et tout à coup, eh bien, s'est produit un profond malaise. Ils avaient péché, ils avaient désobéi. Voilà. Et quand Dieu s'est approché d'eux, parce qu'il les visitait tous les jours, c'est formidable ça quand même. Vous imaginez? Dieu leur rendait visite tous les soirs. Alors, comment vous avez passé la journée? Ça va? Oui. Tous les jours, ça allait bien. Hein. Mais quand, après qu'ils aient péché, Dieu s'est approché, ils se sont cachés. C'est révélateur, ça. Hein? Ceux qui sont papa et maman savent que ça marche comme ça. Hein? Quand on arrive du travail le soir et que le gamin, au lieu de se précipiter dans tes bras, il se défile et il va au fond de la chambre, se cacher derrière l'armoire, même si tu n'as encore rien remarqué, tu sais qu'il a fait une bêtise. Vous voyez comment c'est la nature humaine? Parce qu'on a une conscience. Et oui, la catastrophe était là. Alors, ils avaient péché. Et Dieu a dit, puisqu'il en est ainsi, je vais leur interdire l'accès à l'arbre de vie. Et c'est ainsi que Adam et Ève, d'immortels qu'ils étaient, sont devenus mortels. Et nous en sommes tous là, aujourd'hui. Je ne veux pas vous mettre de bourdon, mais cet après-midi, devant moi, je n'ai que des mourants. C'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas, moi. Même pour les plus jeunes, dans 50 ans, dans 60 ans, dans 70 ans, il n'y aura plus personne. Hein. Parce que nous sommes mortels. Nous avons perdu notre héritage. Nous avons perdu notre héritage. Perdu l'éternité. Perdu l'immortalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous rendre l'héritage. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Et cet héritage, eh bien, c'est que par la foi en Jésus, nous recevons quoi? La vie éternelle. Gloire à Dieu. Ce n'est pas moi qui le rencontre. C'est la parole de Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, au verset 13, eh bien, il est écrit ceci, je pense que ça va s'afficher sur l'écran, il est dit ceci, 1 Jean chapitre 5, verset 13. « Je vous ai écrit ces choses, » dit l'apôtre Jean. « Je vous ai écrit ces choses, » tout ce qui précède, « afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Qu'est-ce que c'est ça, croire au nom du Fils de Dieu? Ce n'est pas seulement croire que Jésus a existé. Ce n'est pas seulement croire qu'un jour il a été cloué sur une croix. La foi, n'est-ce pas, c'est lui remettre notre vie tout entière. Et dire, Seigneur, tu m'as tellement aimé au point de livrer ta vie, on l'a raconté tout à l'heure, en rançon, en sacrifice, pour que par ton sacrifice, mes péchés soient pardonnés, ma dette annulée. Alors en retour, Seigneur, moi je me mets à t'aimer et je te donne ma vie et désormais, je veux faire ta volonté, je m'engage envers toi, tu deviens mon sauveur et tu deviens aussi mon Seigneur. C'est ça, croire en Jésus. Et lorsque nous faisons ainsi, nous recevons le don de la vie éternelle. Alléluia. Nous n'avons plus à craindre la perspective de la mort. Mais nous savons qu'au-delà même du tombeau, le Seigneur nous a préparé une place. auprès de lui. Gloire à Dieu. Ces temps-ci, là, je visitais une chrétienne qui a des soucis de santé, c'est vrai. Et alors, elle était la pauvre. Vous savez, des fois, même quand on est de bons chrétiens, on peut avoir des moments où ça fléchit un peu, notre foi. Alors, elle était perturbée par cette idée de la mort, de la mort, de la mort. Et le Seigneur est compatissant. Vous savez qu'il est compatissant? Il est bon, le Seigneur. Il ne vient pas nous dire, allez, remue-toi là. Oh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu ne dois pas avoir peur. Non, il est plein de bienveillance. Et son mari, qui est un converti, a dit, tiens, je vais là dans la petite cabane au fond du jardin. Il n'y allait jamais. Et puis il est revenu en disant, tiens, j'ai trouvé un cadre dans la cabane. Il est joli, je l'ai ramené. Vous ne savez pas ce qu'il y avait écrit sur le cadre, un verset biblique. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh ! La brave chrétienne a été rassurée. Là. C'est Dieu qui lui parlait, vous voyez. Le Seigneur a vu le trouble de son cœur, ses questions, la mort, la mort, la mort. Et le Seigneur, au travers de cette parole, en plus son mari est converti qu'il le lui apporte, hein, sur un plateau, lui dit, mais ma fille, ne te fais pas de soucis, que ton cœur ne se trouble pas. La promesse, elle est certaine. Ce que je te raconte dans ma parole, c'est pas du bluff, c'est pas du talk. C'est la vérité, que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu, crois en moi. Je suis allé te préparer une place. Et lorsque la place sera prête et que toi, tu seras prête pour la place, eh bien, je reviendrai te prendre et je t'amènerai avec moi. Et là, tu seras avec moi pour l'éternité tout entière. Et son cœur a été rassuré, apaisé, consolé. C'est pas beau, ça? Alléluia! Voilà, Dieu veut vous donner la vie éternelle. La vie éternelle. Alors, bien sûr, quand on est jeune, on a l'impression que la mort, c'est dans longtemps. Hein. Mais la vie, elle est plus courte que ce qu'on pensait au départ. Et lorsqu'on arrive à un certain âge, on se dit, mais il y en a plus derrière que devant. Et puis même quand on est jeune, qui nous dit que dans, je ne sais pas, un an, deux ans, 10 ans, 20 ans, c'est encore là. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, j'ai fait des obsèques, j'allais dire, excusez-moi, de toute taille. Même un petit enfant dans son cercueil blanc comme ça, qui était tombé du 12e étage. Des adolescents, téléphone sonne, tu sais, un tel que tu as connu, qui était à la colo là-bas avec toi, tu sais. Oui, quoi? Il a eu un accident cette nuit. Il est décédé. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Mais lorsque c'est quelqu'un qui s'est préparé, lorsque c'est quelqu'un qui a fait la paix avec Dieu, on est rassuré. On sait où il est parti. Hein? Lorsque j'étais, tiens, à Bayonne encore, on avait un garçon dans l'église, je crois qu'il avait 30 ans. Et un certain dimanche après-midi, j'étais assis sur l'estrade. Il y avait une batterie sur l'estrade et moi, je m'étais assis sur le tabouret de la batterie. Et il vient là, il s'approche, il me dit, bon, mais à la semaine prochaine. Ok, à la semaine prochaine. C'était un dimanche, le dimanche d'après, 9h du matin, le téléphone sonne. Sa mère me dit, Patrick, s'est tué en voiture cette nuit. 30 ans. Alors, bon, il y a eu des obsèques. En plus, il a fallu aller en Espagne là-bas parce que l'accident avait eu lieu en Espagne. Et j'ai prêché, tout ça. Et je suis revenu à la maison et j'étais, comme on dit chez moi, tristouné. Ouais, parce que bon, d'accord. Ben, je ne le verrai plus, quoi. Et je feuilletais ma Bible, là. Je ne peux pas dire, je la lisais, je la feuilletais, vous voyez, je ne sais pas si ça vous arrive, un verset par-ci, un verset par-là, en réfléchissant à tout ça, à la mort, les obsèques. Et Tout à coup, mes yeux se sont portés sur un verset, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, où le Seigneur dit, ça m'a parlé là, paf, comme si Dieu me disait, garde ça dans ton cœur. Ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Ah, j'ai dit alléluia. Hein. Patrick, il n'est pas mort, il est vivant auprès de toi, dans le ciel, dans la gloire. Quand on a cette certitude, mes amis, ça donne un sens nouveau à toute notre existence. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des soucis, des problèmes, des combats, des difficultés, mais on connaît quelle est l'issue. On connaît quelle est la fin de l'histoire. Alléluia. Si vous donnez votre vie à Jésus, vous pourrez connaître non pas les étapes de votre vie. Hein? L'évangile, ce n'est pas Madame Irma. Hein? Ce n'est pas des boniments de tirage de cartes. Non, vous ne connaîtrez pas les étapes successives. Dieu vous les dévoilera au fur et à mesure que vous avancerez. Mais il vous avertira de l'issue finale. Et l'issue finale, ce n'est pas le tombeau. Ce n'est pas la décomposition du corps. Ce n'est pas un squelette au fond de quatre planches. Non, l'issue finale pour l'enfant de Dieu, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Moi, je crois au ciel. Alléluia. Je crois à la vie éternelle. Je sais que je suis en possession de la vie éternelle parce que Jésus un jour est venu dans mon cœur. Et il y est toujours. Alléluia. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. Quelle grâce. Quelle grâce de savoir qu'un jour, le Seigneur nous accueillera. Hein? C'est écrit là dans l'évangile de Matthieu. Il nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous ne voulez pas être du nom, voyez? Le diable, il nous a ravis, il nous a volé l'héritage, il nous a volé l'éternité. Mais Jésus nous rend ce que le diable nous avait volé. Gloire à Dieu. Si toutefois, nous mettons notre foi en lui, notre confiance, notre espérance, notre assurance. Alors, voyez, cette année de grâce. En Israël, ça ne se reproduisait que pour les 7 ans ou tous les 50 ans. Mais depuis que Jésus est venu, ça se renouvelle, quand ça? Tous les ans. À chaque 1er janvier, nous pouvons dire, cette année est une année de grâce. Les pécheurs pourront être sauvés, gloire à Dieu. Les esclaves, esclaves de leurs mauvaises habitudes, pourront être libérés. Et ceux qui mettent leur foi en Jésus pourront recevoir le don précieux de la vie éternelle, qu'est l'héritage délicieux. Il y a un verset qui dit, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Ben, cet héritage, c'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Quand on a ça, vous savez quoi? On est riche. Amen. Hein? Lorsque j'étais jeune, nous chantions dans les réunions de jeunesse un cantique qui disait « Je suis plus riche qu'un millionnaire, Dieu prend soin de moi. » Alléluia. Et c'est vrai, la vraie richesse, ce n'est pas la richesse financière, pécuniaire, c'est celle du cœur. Et on est riche quand on est en possession de la vie éternelle. Puissiez-vous le comprendre? Et à cause de cela même, recevoir, accepter Christ comme votre sauveur. Il vous aime et il vous veut du bien. Amen. Allez, on le prie. Notre Dieu, sois béni, sois loué et sois glorifié.